Alors, nous voilà de retour. C'est maintenant le moment de jaser un peu de baseball avec notre analyste Alex Agostino. Salut, Alex.
Salut, Jérémy.
Alex, je voulais te parler de sécurité dans le baseball pour commencer notre segment d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir le petit reportage mis sur pied par Steve Phillips, analyste de baseball à TSN, ancien directeur général aussi du baseball majeur, concernant les joueurs qui sont atteints à la tête, au visage, dans le baseball majeur depuis le début de la saison. Il y a eu aussi une séquence extrêmement troublante cette semaine au niveau 3A. Tyler Zumbro, un lanceur de Durham dans l'organisation des Rays, qui a reçu malheureusement une flèche en pleine tête, et on l'a vu s'écraser au sol, être en convulsion sur le monticule. On a même annulé le match suivant entre les deux équipes. Alex, j'ai comme l'impression qu'on est rendu à un point de non-retour avec la vitesse des tirs, avec la vélocité aussi avec laquelle les joueurs frappent la balle. Ça devient de plus en plus dangereux, notamment pour les lanceurs et pour les frappeurs. Est-ce que tu partages mon opinion et qu'est-ce qu'on peut commencer à faire pour assurer la sécurité de ces joueurs-là?
Ben, c'est sûr que ce que tu viens de mentionner, là, la vitesse que les lanceurs lancent des 95 à 100 000 à l'heure régulièrement.
C'est ça.
La vitesse que les frappeurs s'élancent, ça, c'est une autre affaire, là. Ceux qui sont bons dans les lois de la physique, là, quand la balle s'en vient à une telle vitesse, et le frappeur, avec sa force et la vitesse dans ses mains, quand il y a un contact direct et la flèche s'en vient vers le lanceur, qui, quoi, lance la balle à 54, il lâche la balle, il est peut-être à 54 pieds lorsqu'il est en position défensive, et de la façon que les lanceurs lancent mécaniquement, il n'y en a pas beaucoup qui sont en position défensive pour attraper une flèche qui s'en vient vers eux. Alors oui, on est sur le point de non-retour. Je pense pas qu'on va se rendre à des lanceurs à 110 000 à l'heure, là, mais la seule chose que je vois, c'est on a tenté à un certain moment de peut-être mettre des casquettes protégées, un peu à la John Olerud.
Exact.
Au premier but avec un casque. Et ça n'a pas vraiment fait fureur. Les lanceurs sont disant ça protège pas notre visage, mais au moins, ça peut protéger le côté de la tête, le cerveau.
Exact.
C'est un nez cassé, ça fait mal. Une dent cassée, ça fait mal, mais un cerveau, c'est très dur à réparer.
Non, c'est sûr.
Je pense qu'on doit, si on veut que la sécurité fasse partie des priorités du baseball majeur, on doit trouver une solution que le lanceur soit confortable, mais qu'il soit protégé. Moi, je pense que ça passe via un certain cash fait en sorte que, tu sais, pour le road, oui, t'as pas lanceur, mais vu qu'il avait eu, lui, une opération au cerveau dans sa jeunesse, il a toujours joué défensivement avec un casque qui le protégeait en cas d'une balle frappée, un mauvais bond, quoi que ce soit, et puis il a été capable de le faire. Évidemment, il n'y a pas la violence quand tu es au premier but d'une mécanique qu'on voit, là, de le lanceur qui lance, la tête à bouge, il y a toutes sortes de choses, mais ce qui me fait encore plus peur, Jérémy, là, tu l'as mentionné, c'est les frappeurs atteints cette année dans le haut du visage, pas parce qu'ils ont été intentionnellement atteints, parce que les lanceurs qui lancent avec beaucoup de vitesse, ben ils n'ont pas tous du bon contrôle.
C'est ça.
Et souvent, quand un lanceur, quand il veut garrocher, veut lancer fort, son release point, son point de relâchement, souvent il s'égare puis il s'en va.
Oui.
S'éloigne de son poste. Qu'est-ce que ça fait? Droitier contre droitier, tu vas avoir une balle qui s'en vient. Gaucher contre gaucher, la balle qui rentre vers le frappeur, c'est arrivé à Kevin Pillar. C'est arrivé à Bryce Harper. Et ça, tu sais, Bryce Harper n'a pas été le même depuis. Hein. Puis il reste 10 ans à 250
contrat.
Millions encore à payer sur son contrat. Il y a eu plus un malaise à la main aussi en se protégeant. Est-ce qu'il va revenir? Je pense que oui. Mais ça, c'est une autre affaire parce qu'on n'enseigne plus aux lanceurs d'atteindre la cible. On enseigne juste de lancer avec beaucoup de vitesse.
Ben oui.
Alors bon. Ça, je pense que c'est encore un point encore plus dangereux.
Mais Alex, moi, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Premièrement, là, je suis sur les terrains de baseball, ouais, comme tu sais, avec mon fils et tout ça. Moi, j'ai essayé de... Mon fils possède un casque à la John Olerud, mais il refuse de le porter quand il va lancer parce qu'il dit il n'y a personne d'autre qui le porte. Moi, je vais avoir de l'air bizarre. Et pourtant, ouais, écoute, ouais, on le voit pratiquement pas, le casque par-dessus la casquette. Mais moi, je pense qu'on devrait imposer ça dans le baseball mineur à tous les lanceurs qui devraient porter ce type de casque-là. Ensuite, souvent dans le baseball mineur, on a des lanceurs qui n'ont pas de contrôle, qui lancent très fort. On leur demande de lancer fort et souvent, ben, nos jeunes, malheureusement, sont des cibles à la plaque. Et Ce que Steve Phillips expliquait, c'est que, justement, on demande aux lanceurs de lancer tellement fort, et il y en a tellement maintenant qui lancent entre 95 et 100 000 à l'heure, que tu sais la fraction de seconde qu'avaient avant les frappeurs pour s'enlever du chemin, ils ne l'ont pratiquement plus. Et souvent, ils doivent tellement se préparer d'avance pour ne pas être en retard sur le tir, qu'ils sont déjà en position pour effectuer leur élan. Et là, impossible pour eux de se défendre. Mais est-ce qu'on devrait pas au moins faire ce qu'on a fait au hockey avec la visière, Alex? Au moins, là, le protecteur pour la mâchoire, dire tous les nouveaux joueurs qui rentrent dans le baseball majeur, vous êtes obligés de le porter.
Ça, c'est un excellent point. Puis ça, il faut que ça passe par l'association des joueurs. Évidemment, il y en a des frappeurs qui portent cette protection, qui disent, t'es un frappeur droitier, ça protège ton côté avant. Et j'aimerais aussi enseigner aux frappeurs, la plupart des frappeurs qui se font enseigner souvent, c'est qu'ils ont comme un pas vers le lanceur, ils rentrent, en anglais on dit ils dive vers le marbre parce qu'ils s'attendent à un type de tir, mais quand la balle bouge ou quand la balle n'est pas dirigée vers où eux ils pensaient, trop tard, ils n'ont aucune chance, c'est aucun temps de se passer, comme tu disais, parce qu'avant même dans mes camps, les jeunes, on enseignait, on lançait des balles de tennis à la hauteur de l'épaule, dans le dos ou vers le visage. On enseignait comment éviter une balle, c'est-à-dire de se retourner un peu vers soi-même pour essayer d'absorber le coup dans le dos.
Oui, ouais, avec mal, l'épaule.
Ça fait bien moins mal avec l'épaule où tu tournes à la Ron Hunt dans le temps.
Si exact.
Tu fais les expos, lui, il se faisait atteindre, mais il se faisait pas atteindre par les mêmes tirs d'aujourd'hui.
Non.
Okay? C'est vraiment, il se faisait atteindre dans la jambe, il se faisait atteindre dans l'épaule, le coude, ces choses-là. Mais ce serait un excellent règlement. Puis des fois, ça prend du temps parce que groupe de joueurs qui disent non, moi, je suis pas confortable avec ça. Je veux dire, pourquoi pas?
J'ai
vu du baseball mineur, moi, aux États-Unis, avec des frappeurs, avec même un grillage, Jérémy, qui protégeait le côté. On voit beaucoup plus ça à la balle molle.
Mais
au baseball amateur aux États-Unis, dans certaines écoles secondaires, je l'ai vu. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas si c'était confortable. Mais juste protéger la mâchoire, là. Ça fait quelque chose.
Absolument.
Moi, je pense que la technologie aujourd'hui, pour faire de quoi, parce que les lanceurs demain matin commenceront pas à lancer 85 000 à l'heure.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais Steve Phillips amenait un autre point. Je sais pas ce que tu en penses. Donner à l'arbitre derrière le marbre le pouvoir d'expulser un lanceur qui n'a clairement pas de contrôle cette journée-là. C'est-à-dire que là, t'as raté le gars là, près de la tête deux fois, t'en as atteint un autre au niveau de l'épaule, t'as failli y arracher la tête, ben l'arbitre peut décider, excuse, mais toi, t'es pas dans ce match-là, t'es parti, t'as pas le contrôle, rentrez-moi un autre gars. Je sais pas ce que t'en penses, c'est sûr que là, ça vient jouer dans la stratégie de l'équipe, mais...
Je vois pas ça, j'aime bien Steve Phillips, je l'entends souvent, je l'ai entendu celle-là.
Oui.
Je vois pas comment que ça pourrait passer.
Okay.
Peut-être un avertissement comme qu'on fait quand on pense qu'il va y avoir des bagarres générales, mais si le gars, tu sais, ça arrive que des fois, t'as pas le contrôle, t'en échappes une, mais t'es pas supposé, au niveau du baseball majeur, avoir tant un manque de contrôle, parce qu'avant, on les préparait dans les mineurs, tu passais du temps. Là, on les précipite vers les majeurs, parce que, Jérémy, je te dirais que dans le A faible hier, tout le monde lançait 97, 93, c'est pas des gars des majeurs, parce que c'est des garageurs encore. On les enseigne plus. Ah, le gars, il lance fort, il y a une bonne séquence, on le monte. Parce qu'il y a un autre point, Jérémy, quand tu parles de safety, là, de sécurité. Sais-tu qu'à ce moment-ci, il y a 240 joueurs sur la liste des blessés dans le baseball majeur?
Incroyable.
Il y a 30 équipes. C'est 8 joueurs par équipe.
C'est fou.
Il y en a qui étaient le Tommy John durant la saison morte, ces choses-là. On est à 60 parties à peu près. On est à peu près à la saison qu'on a eue en 2020. Alors là, on parle de sécurité. C'est les joueurs sont soit blessés à cause du jeu, la rapidité du jeu, les maux de bras, frappeurs qui se lancent, qui ont des blessures au tissu musculaire, aux obliques. On a 240 sur la liste de blessés. Ça veut dire qu'il y a 240 joueurs qui auraient dû être dans les ligues mineures, qui sont dans le baseball majeur. OK.
Mm-hmm.
Disons que tu as 2-3 blessés par équipe. On parle de 75 blessés. Il y a quand même 170 joueurs de plus présentement dans le baseball majeur qui auraient dû être dans le 2A ou 3A. Ils sont pas tous prêts. Et ça arrive souvent. C'est le lanceur qui a atteint Harper au visage. Il y a eu 2 tirs à l'intérieur. Il s'est excusé. Il se sentait mal. Mais il n'était pas prêt à lancer un baseball majeur cette journée-là. Malheureusement, ça arrive. Alors, je pense pas que les arbitres seraient la bonne solution. Mais peut-être la solution, c'est de développer en tant que lanceur un petit peu plus. Oui, c'est beau d'avoir la vitesse dans notre besoin. mais pourquoi qu'on n'ajoute pas la couche de développement, de comment lancer à la bonne place?
Bon, Alex, je vais te parler d'un autre sujet. Je vais absolument te parler de Vladimir Guerrero parce que je voulais t'en parler la dernière fois, mais on a manqué de temps. Vladimir Guerrero Jr., quand il s'est présenté au camp d'entraînement, on l'a vu cet hiver à quel point là, vraiment il a perdu du poids, il a fait un effort à ce niveau-là pour se remettre en forme. Et puis je me suis dit, ouais, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va être capable de garder ce poids-là pendant un bon bout de temps? Ben écoutez, présentement, là, après 2 mois d'activité, 17 circuits, il est premier dans le baseball majeur. 434 de moyenne de présence sur les sentiers, premier dans le baseball majeur. Moyenne de puissance, 155, premier dans le baseball majeur. Les points produits, 45, il est deuxième. Je suis assommé, je dois te dire, Alex, de voir la transformation de Vladimir Guerrero. C'est pas parce qu'il était pas bon l'année passée, mais maintenant, avec la discipline en plus au bâton et la puissance qu'il amène, il est présentement peut-être le meilleur joueur de baseball dans tout le baseball majeur. Qu'est-ce que tu remarques en lui quand tu le regardes présentement?
C'est simple, là. Il est beaucoup plus souple, il bouge mieux. Les statistiques que tu as mentionnées, c'est les statistiques d'un joueur le plus utile, offensivement.
Ben oui.
Et l'autre chose, c'est que défensivement, il est capable de se déplacer beaucoup mieux parce que l'année passée, à pareille date, ils ont joué 60 parties. Il y avait 9 circuits, il a frappé 2,62. La moyenne de présence s'est vue de 325 à peu près. Alors, on parle d'un joueur moyen du baseball majeur l'an passé à cause de son talent. Et quelqu'un a dû rentrer dans la tête, je ne sais pas si c'est son père ou c'est les Blue Jays, mais les Blue Jays qui ont donné plus de 4 millions à la signature lorsqu'il avait 16 ans, s'attendaient à ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce que s'il est capable de garder cette discipline, il l'a fait jusqu'à présent, mais c'est encore jeune, c'est un joueur qui va mettre des chiffres dignes du temple de la renommée pour aller rejoindre son père un jour. Je ne veux pas dire qu'il s'en va là parce que on est encore très jeune dans sa carrière, mais ce qu'il fait présentement, offensivement, il est le joueur le plus dominant avec les Fernando Tatis,
oui,
et Mike Trout quand ils sont implantés, ces joueurs-là, mais c'est vraiment un gars que tu payes pour aller voir. Moi, je vois un gars qui a eu honte un peu de sa performance l'année passée. Il aime les Blue Jays, il aime le Canada. C'est un gars qui est né à Montréal, on se rappelle. Son père a eu des moments de gloire à Montréal. Il dit, il s'est excusé à ses coéquipiers à la fin de l'année. Ça, c'est des paroles, Jérémy.
Oui.
Durant la saison morte, c'est pas juste de perdre du poids, c'est d'être plus flexible, d'être plus rapide, d'être plus... Parce que le baseball, c'est un jeu rapide, parce qu'il y a un élan violent. Lui, il a la vitesse dans le bâton. Alors là, il est capable de mettre la balle en jeu. Puis Jérémy, il y a autant de surballes que le retrait au bâton. Dans le baseball d'aujourd'hui, tout le monde se retirait au bâton, ça compte pas. Lui, il a les buts sur balle, il a la patience que son père avait pas jeune.
Exact.
Et en plus, il ne se fait pas retirer trop souvent au bâton. Puis quand tu mets la balle en jeu, à la vitesse que lui, il fait, là, souvent en haut de 100 000 à l'heure, il y a des bonnes choses qui vont arriver.
Écoute,
le circuit qu'il avait l'année passée.
L'année passée, là, à un moment donné, j'ai commencé à douter, puis j'ai dit, ce gars-là n'aura pas la carrière qu'on pensait qu'il allait avoir, n'a pas la discipline à l'extérieur du terrain, nutrition, entraînement et tout ça. Là, il est en train vraiment de me faire mentir. Je sais pas si tu as regardé Shohei Ohtani hier soir. Alex, on a plus le temps, malheureusement, on en reparlera, là, mais encore une fois, 10 retraits au bâton hier soir, 75 tirs, je pense.
Aucun but sur balle, Jérémy.
Aucun but sur balle. Quelle machine.
Départ, il y a quelque chose.
Excellent. Merci, Alex. On se reprend très, très, très bientôt. Avant de passer à la pause, on va écouter l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, qui nous parle du Canadien et de pourquoi le club performe aussi bien depuis quelques semaines.
La mentalité de la série éliminatoire est différente. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, mentalement, c'est une autre histoire. Puis, j'aime comment notre équipe a grandi à travers ces moments-là, puis a appris aussi à gérer beaucoup mieux la situation.
Voilà, alors l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, on vous rappelle que le Canadien mène cette série-là, 2-0 face aux Jets et que ça se poursuit dès demain à partir de 18h, émission d'avant-match à 17h sur nos ondes avec Martin McGuire et Danny Dubé. Petite pause au retour de ceci, on va parler d'un sujet un peu plus léger, le baseball des ligues mineures. Hein. Vous savez, la saison va commencer dans quelques semaines, dès que Montréal va pouvoir tomber en zone jaune. Donc on en discute avec Jean-François Julien, directeur des divisions québécoises des petites ligues de baseball du Québec.